Vous êtes toujours dans la Mystery Machine, toujours dans l'émission C'est de la locale, et Tatiana et moi-même, nous sommes toujours à Bayeux. Arnaud Tancrel, tu viens de nous rejoindre dans la Mystery Machine. Bonjour, comment ça va ?
Bonjour.
Bonjour Simon, bonjour Tatiana, merci de venir jusqu'à nous, à Bayeux, en pleine saison estivale. C'est un beau cadeau que vous nous faites, merci.
Oh génial, merci beaucoup.
Oui, c'est un beau cadeau aussi de nous accueillir, d'accueillir la Mystery Machine. On est placé sur le parvis de la cathédrale.
Ouais. Trop
bien. Il fait beau, c'est super gentil. Donc toi, tu es premier adjoint en charge de l'environnement, du sport, des loisirs et de la jeunesse.
Oh là là, ça fait très sérieux tout ça. Hein.
Comment est-ce que toi tu le résumerais ?
Ah écoute, c'est toujours des rencontres en fait qui amènent à faire les choses. Et il y a plusieurs années, j'ai rencontré d'abord Jean-Léonce Dupont, qui est l'ancien maire de Bayeux, puis Patrick Gaumont. Moi je suis né ici, j'ai grandi ici, je me suis toujours investi, notamment dans le milieu associatif. Et donc je pense que mon engagement aujourd'hui, c'est tout simplement de rendre ce que cette ville m'a donné, ce que cette ville m'offre au quotidien. Parce que quand on habite à Bayeux, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu chauvin, mais on a beaucoup de chance d'habiter ici. On est à 2 heures de Paris, on est à 10 minutes des plages, et à cette période-là, c'est quand même génial. On est à quelques centaines de quelques dizaines de mètres des forêts domaniales de la forêt de Cerisy. On est dans une petite ville préservée qui n'a pas été bombardée en 1944. Donc on a encore beaucoup de rues pavées, on a des immeubles, des petits châteaux, des petits manoirs. Il fait bon vivre ici, quoi. Et tout ça est très vert en plus. On a la chance d'avoir des arbres remarquables qui sont classés, donc il y a un cadre de vie qui est vraiment très préservé.
Et effectivement, ça donne envie d'y vivre. Toi, personnellement, est-ce qu'on peut dire que tu es bayeuxin ou bayeuxocasse ?
Alors moi, je suis bayeuxocasse et bayeuxin, puisque je suis né à Bayeux, j'ai grandi à Bayeux, j'ai fait une grande partie de mes études à Bayeux. Je travaille à Bayeux, j'habite à Bayeux. Alors j'aime bien bouger, hein, je rassure vos auditeurs.
Ils voyagent.
C'est bien de voyager quand même.
Tu vas
voilà.
Un peu en dehors de Bayeux, mais tu reviens vite.
Je reviens vite, voilà. Quand je vois pas ma cathédrale pendant 3-4 jours, je suis pas bien.
C'est une sorte de piqûre un peu.
Oui, et puis avec tous les touristes, finalement, tu voyages en même temps aussi.
Oui, c'est vrai.
Mais vous avez tous les deux raisons. C'est... En fait, vous voyez, à cette période-là, quand on a des responsabilités comme les miennes, avec le conseil municipal, le conseil communautaire, le milieu associatif, il se passe beaucoup de choses. Et très souvent, c'est le soir. C'est une fois que les gens ont terminé leur travail, on a les réunions de commission, conseil municipal, conseil communautaire, les syndicats qui se réunissent, les choses comme ça. Et à cette période-là, c'est calme. Il n'y a pas toutes ces réunions. Tout le monde est parti en vacances, les services sont en vacances. Et donc, à 17h, 17h30, on est libre. Alors que d'habitude, c'est à partir de 20h, 21h, des fois 22h. Et donc, on redécouvre comme ça l'ambiance, on se redécouvre du temps, et flâner, entendre parler les diverses langues, prendre un verre avec des copains en terrasse, improviser une soirée, faire un barbecue, aller chez les copains, enfin voilà. Et ça, pour moi, c'est une vraie parenthèse, et c'est vraiment, ça fait du bien, c'est très sympa.
Alors tu es chargé des sports, donc ça va être difficile de pas parler du Tour de France. Comment s'est passée cette organisation du Tour de France, parce que Bayeux a été ville départ de la 6e étape, me semble.
Mais c'est ça.
Comment ça s'est passé, cette organisation?
Alors l'organisation, elle est costaud, mais heureusement, ASO, qui est l'organisateur du Tour de France, c'est une grosse structure, c'est vraiment une machine. Alors même si évidemment la ville et nos services ont beaucoup de choses à faire, mais c'est incroyable, je crois qu'en termes de retombées, de suivi médiatique, après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde qui ont lieu tous les 4 ans, tous les 2 ans alternativement, le Tour de France, c'est l'événement annuel le plus suivi au monde. Il suffit simplement de... Moi, j'ai pris le temps de regarder un petit peu les retransmissions qui ont été faites de notre ville départ, non pas par France Télévisions, même si ce sont les images et les moyens techniques de France Télévisions, mais sur les autres chaînes, notamment en Australie, en Angleterre, au Danemark, aux États-Unis. On a montré que des belles images du territoire. Et donc, à un moment où nous, petits élus à Bayeux, eh bien, on essaye de promouvoir notre territoire avec des moyens qui sont quand même assez limités. On n'a pas les moyens, je ne sais pas, de Paris, de Bordeaux ou de grandes stations touristiques balnéaires, de grandes stations de ski. Le Tour de France, ça permet aussi ça, c'est-à-dire de montrer toute la richesse du territoire, les plages de débarquement, la cathédrale, Bayeux Intercom, l'abbaye de Gémondé où Kevin Vauquelin est né. Enfin voilà, c'est des choses comme ça où...
Wow. Ça démarre fort.
On a la chance, vous voyez. Kevin Vauquelin, il fait du vélo, pas de la moto.
C'était Kevin Vauquelin qui démarre. Hein. C'est pour vous dire la vitesse.
Le pauvre, j'espère qu'il nous entend pas parce que sinon il doit bien rigoler.
Est-ce que tu as pu les quantifier, les retombées ou pas encore ?
Alors oui, alors ça va se faire dans le temps.
Évidemment.
Ce qu'on sait, c'est qu'en termes de fréquentation, on est autour de 40-45 000 personnes. Moi, j'ai jamais vu autant de monde à Bayeux que pour cette étape du Tour de France. Pourtant, on a eu beaucoup d'autres événements organisés avec les anniversaires du débarquement, les choses comme ça. Mais là, c'était noir de monde. Et puis, ce qui est incroyable, c'est moi, c'est ce qui m'a marqué, c'est cette euphorie en fait des gens. Les gens sont contents. Ils avaient tous le sourire. Ils venaient en famille. On a vu les enfants, les grands-parents, les frères, les sœurs, enfin les cousins, les cousines. Tout le monde était là sur les bords de route.
Génial.
C'était vraiment génial. Et je pense que c'est ça la magie du Tour de France. Ouais. C'est cette caravane publicitaire, c'est le côté sportif, c'est le côté populaire où on a tout le monde s'arroche le bob cochonou, tout le monde veut une petite portion de vache qui rit,
on l'a arrosé, eu.
Voilà. Mais je vous vois pas avec.
Ah, on le met pas tout le temps. Bah comme tout le monde en fait, c'est ça qui est fou avec le Tour de France, c'est que on y était avec Tatiana juste pour l'étape d'avant, à Caen, à Caen.
Ouais.
Et tout le monde porte, tout le monde met un maillot jaune, met un bob comme tu disais. Mm-hmm. Ça devait être pareil, je pense à Bayeux où tout le monde s'habille un petit peu en mode Tour de France.
Ouais, c'est ça. Alors c'est un côté, je vais pas dire beauf parce que c'est pas vraiment le terme, mais c'est vraiment le côté populaire.
Il y a un côté folklorique.
C'est ce
quoi,
voilà, c'est ça. C'est ce qu'on aime bien, quoi. Voilà. Et la France, c'est ça aussi. Et je crois qu'il y a que le vélo qui peut amener ce côté populaire parce que ce sont des événements qui sont organisés sur route et donc ça demande en termes de logistique et d'infrastructure pour du coup avec notre casquette de sécurité, de sûreté, de protection des populations, évidemment d'être précis et exigeant. Des fois, il faut avoir un petit grain de folie pour faire tout ça, mais en tout cas c'est vraiment un beau moment, quoi.
Ouais.
Il y a des gens qui ont vu le Tour de France qui n'auraient jamais imaginé voir les grandes vedettes du vélo passer, de voir la caravane publicitaire et puis avec tout ce que ça ramène, les hélicoptères, enfin la dimension du Tour de France.
Ah bah c'est sûr.
Un beau moment.
Et d'ailleurs, ça a mobilisé combien de bailleusins, combien de personnes ont été bénévoles ou se sont impliquées sur le Tour de France?
Alors nous, on avait lancé un appel aux bénévoles et on a eu à peu près 130-140 personnes. On avait besoin de 130-140 personnes pour faire tourner la machine. Et après, nos services municipaux ont été très largement mobilisés. Donc c'est à peu près une cinquantaine de personnes qui ont été mobilisées. C'est le service des sports, c'est le service communication, le service technique, nos électriciens, la logistique, et toute la partie administrative aussi, hein, qu'on sous-estime très souvent. Toute la partie réceptive aussi, parce qu'on voulait recevoir notamment les quelques entreprises de la ville qui nous ont aidés d'une façon ou d'une autre ou qui nous aident tout au long de l'année aussi sur les différents événements de la ville. Et donc pour nous, c'était l'occasion de les remercier. Donc oui, ça mobilise du monde, quoi. Mais quel bel événement, quoi. C'est vraiment super.
Ah bah c'est sûr, c'est trop bien le Tour de France.
Et justement... comment on s'attend, comment on se dit, parce qu'on sait que le sport rassemble, mais pour un tel événement, quand on le vit vraiment et on le voit, comment on se sent, on se dit, enfin, qu'est-ce qu'on se dit en fait quand on voit ce rassemblement où tout le monde...
T'as pas eu peur un moment où tu dis, oula, il y a trop de monde, ça va peut-être nous...
Non, j'ai pas eu peur de ça... en fait ce projet de Tour de France avec Loïc qui était le précédent invité, c'est un sujet qu'on a travaillé avec le maire il y a quasiment 10 ans la première fois. En fait Bayeux, vous le disiez tout à l'heure, c'est une ville touristique. Mais c'est une ville dont on a besoin. On vient pas naturellement à Bayeux, on vient pour les plages de débarquement, on vient voir la tapisserie de Bayeux, mais tout ça, ça demande à être promu, et encore une fois on n'a pas des gros moyens, donc il faut qu'on soit un petit peu intelligent et qu'on essaye de chercher des sauges originales. Le Tour de France en fait partie, la Flamme Olympique en fait partie. Je ne sais pas si vous avez parlé tapisserie tout à l'heure avec Loïc,
oui.
Mais c'est un vrai sujet. La tapisserie va partir dans quelques mois à l'étranger.
Oui.
Pour certains, c'est une polémique. Pour nous, ce n'est pas une polémique. Au contraire, c'est vraiment quelque chose de super parce qu'en termes de mise en avant de l'œuvre, de mise en avant de la ville aussi, bien, le Tour de France, c'est aussi ça. C'est-à-dire que ça nous permet vraiment, nous, de pouvoir vivre ce type d'événement, d'apporter un coup de projecteur sur la ville. Mais c'est vrai que ça demande une logistique incroyable. Et moi, le Tour de France, c'est ce qui m'impressionne le plus. C'est moi qui suis passionné de cirque. J'ai grandi en voyant les cirques passer de ville en ville tous les jours. C'est ce qu'on appelait les tournées d'été. Donc je sais ce que ça représente que de monter un chapiteau, de le démonter, de le transporter à l'époque, s'occuper des animaux, des choses comme ça. Mais le Tour de France, c'est ça. C'est-à-dire que tous les jours, c'est un village d'un peu plus de 4000 personnes qui se déplacent avec les coureurs, les techniciens qui suivent les coureurs, les gens qui s'occupent des ravitaillement, avec les cuisines, les bus, mais ça c'est que pour la partie course, mais il y a toute la partie publicitaire, c'est 240 véhicules pour la caravane publicitaire, et plus tous les véhicules de ravitaillement et de déplacement de la caravane, vous rajoutez à ça la presse, vous rajoutez à ça les invités, les partenaires, donc c'est des milliers de véhicules à déplacer, à stationner, à véhiculer, et c'est aussi ça la magie du Tour de France, c'est-à-dire que c'est un vrai village qui pendant 3 semaines se déplace tous les jours. Il y a la course, évidemment, il y a le côté sportif, il y a le côté populaire, mais il y a surtout ce grand cirque qui doit être déplacé tous les jours. C'est absolument remarquable.
Ouais, c'est incroyable. Toi qui, justement, comment est-ce que tu as vécu ça de l'intérieur? Impressionné?
Oui, impressionné. Et en fait, j'étais un peu frustré, pour tout vous dire, parce que, je vous le disais tout à l'heure, on a le premier courrier qu'on a envoyé à SO pour être candidat, pour être ville départ ou dérivé, c'était il y a 8 ans. C'est très formel, en fait. Il faut candidater officiellement. Et ensuite, ce sont les organisateurs du tour qui sélectionnent les villes en fonction des passages et des villes et des régions visitées. Et donc, il a fallu qu'on attende 8 ans pour pouvoir être sélectionné. Et en fait, moi, j'étais frustré parce que, quand on aime un peu le vélo et le Tour de France, on s'intéresse forcément au côté technique et donc au paddock des joueurs, des coureurs. Et j'ai pas pu aller voir le paddock. Et en plus, cerise sur le gâteau, on avait Kevin Vauquelin. Kevin, il a découvert le cyclisme à Bayeux. Un jour du forum des associations, il s'est dit tiens, je vais tester le vélo, et la semaine d'après il enfourchait son premier vélo, et tout est parti d'ici. Donc forcément Kevin, il a une place particulière chez nous. Il a été il y a quelques années parrain des trophées des sportifs de la ville qu'on organise parce qu'on veut mettre en avant nos sportifs locaux, le sens de l'investissement, le sens de l'engagement, les valeurs sportives, et Kevin a tout ça, et donc ça a été absolument incroyable de permettre à Kevin, qui est un gamin de chez nous, quoi, qui a grandi ici, bien de pouvoir vivre ça aussi, quoi. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui marche un peu à l'affect et à l'émotion. Et en fait, de voir l'émotion de ses parents, de voir l'émotion de Kevin, ou alors les deux, trois personnes qu'on a sélectionnées, je pense à Francis Mal, qui a payé le premier vélo de Kevin, qui était marchand de vélo, et donner lui le départ avec son drapeau. Le jour où on lui a dit ça, il était ému aux larmes. Vous voyez, le Tour de France, c'est aussi tout ça, quoi. Il y a une part familiale.
Et puis il y a des villes impliquées et qui sont heureuses d'être impliquées.
Oui, je pense que ça joue aussi. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Soit on se donne les moyens de bouger et d'être force de proposition, ou alors on reste sur ses acquis. Je pense pas que c'est comme ça qu'on évolue.
C'était forcément, je pense, le plus gros événement que vous avez organisé cet été, mais c'était pas le seul. C'est quoi les autres événements qui arrivent et qui sont passés à Bayeux cet été?
Alors, il y a plein d'événements. Il y a le week-end dernier, on avait la braderie avec les commerçants qui organisent une braderie durant deux jours. Loïc vous en a parlé, mais il y a Contemplation avec le spectacle sur la cathédrale, qui est une projection vraiment spectaculaire. On a aussi, pendant trois vendredis de la semaine, Zico Parvis. C'est sur le parvis de l'hôtel de ville, c'est le vendredi soir. Et puis vous savez, Bayeux vit tout au long de l'année, déjà avec ses acquis, avec son expérience, évidemment les musées. Mais vous ne le savez peut-être pas, mais on a à Bayeux un des plus bels arbres de France, puisque le hêtre pleureur de Bayeux a été élu plus bel arbre de France il y a un an. C'est un arbre absolument remarquable qui a une envergure de 40 mètres de diamètre, et donc on peut pénétrer comme ça sous cet arbre qui est absolument incroyable. Il doit faire 13 ou 14 mètres de haut, c'est pas très haut, mais c'est un arbre vraiment original. Et donc, plus bel arbre de France, c'était il y a un an et demi, et il a fini deuxième au niveau européen.
Ouais, il incroyable. A été planté en 1864.
Voilà, les petites notes sont précieuses. Hein.
Et oui, parce que j'ai dans ma chronique, exactement, j'en ai parlé. Oui.
Mais c'est vraiment un bel arbre.
Et il se situe où? Là, on est à la cathédrale, où est-ce qu'il se situe par rapport à la cathédrale?
Il est en plein cœur du jardin botanique, donc c'est un peu le jardin des plantes de la ville. Ce sont les frères Boer qui étaient, je dirais, architectes paysagers, qui ont conçu ce parc. Ce sont les mêmes architectes paysagers qui ont notamment développé le parc de la Tête d'Or à Lyon. Donc c'est des gens de référence. Et en fait, toutes les allées mènent à cet arbre. C'est un arbre remarquable de France. C'est un croisement entre un faux-de-Verzy et un hêtre. Donc c'est un peu technique, mais normalement le hêtre pleureur est très haut et pleure. Mais là, comme c'est un croisement avec un faux-de-Verzy, il est plutôt bas, mais il a toujours gardé cet aspect pleureur. Et en fait, toute la structure a été retenue par une structure métallique, ce qui fait que les gens pouvaient circuler sous cet arbre et peuvent toujours circuler sous cet arbre. Et autour de cet arbre, les gens viennent se faire photographier pour les mariages, pour les baptêmes, pour les communions. C'est vraiment un rendez-vous. Et la ville est très verte. On a aussi une rivière qui s'appelle l'Or à Bayeux. Et donc, on a aménagé depuis plusieurs années les bords de l'Or. Donc, il y a un peu plus de 4 km, 5 km de balade où les gens peuvent circuler, déambuler, découvrir les animaux, observer la faune et la flore. Voilà, ce sont des choses qu'on peut faire aussi à Bayeux.
Bah, tu es en charge de l'environnement. Et du coup, ma question, maintenant que tu as parlé de l'arbre, c'est quoi les enjeux environnementaux à Bayeux?
Bayeux est naturellement une ville verte. Je le disais tout à l'heure, c'est d'abord un centre-ville, puisque Bayeux n'a pas été bombardé en 1944, donc il y a ce côté historique avec les vieilles pierres, l'artère commerçante qui est aussi une attraction une attraction à elle toute seule, puisqu'on a des commerces divers et variés, on a vraiment des petits commerçants, on a des artisans, donc on a des gens qui font ça, qui font leur métier avec passion. C'est vraiment dans l'ADN de la ville, ce côté commerçant. Mais la ville est naturellement verte, puisque du coup, comme on a des petits manoirs, comme on a des belles maisons, des belles demeures, on a aussi beaucoup de parcs et beaucoup de jardins. Et on a des endroits historiques et qu'on souhaite conserver. C'est le cas derrière nous, un petit peu plus haut sur la place de Gaulle, qui est l'ancienne place du château, où le général de Gaulle est venu par deux reprises à Bayeux pendant la libération. Et donc, ce sont vraiment des espaces verts. Je parlais du trait d'union tout à l'heure avec les bords de l'Or. Les bords de l'Or, aujourd'hui, le département a fini d'aménager une zone qu'on appelle l'espace naturel sensible. Et là, c'est un espace où vraiment les familles peuvent aller, puisque y a une petite réserve d'eau. Et donc, il y a des oiseaux, il y a des libellules, il y a des différents animaux. Et c'est vraiment des endroits qui sont très sympas. Il y a un autre arbre remarquable qui est complètement entouré au pied de la cathédrale.
Au pied,
avant de partir, il faudra aller le voir.
Ah ouais,
au pied de la cathédrale.
C'est un platane. Ouais. Et c'est un platane qui a un peu plus de 200 ans, puisqu'il a été planté pour la Révolution française, enfin juste après. Et lui aussi fait partie des arbres remarquables de France. Il est classé. C'est un arbre magique. Et il y a quelques années, le spectacle de l'Office du Tourisme avait lieu sur cet arbre, justement.
Dessus ou en dessous?
En dessous. Le tronc servait de support, de fond. Et les projections se faisaient en 360 sur l'arbre. Il y avait des images vraiment merveilleuses qui avaient été faites sur cet arbre.
Et donc, justement, moi, j'y pense. Qu'est-ce que vous pourriez donner, selon vous, quelles sont les petites habitudes qu'on pourrait, que chaque habitant de Bayeux pourrait adopter, des petites habitudes écologiques qui pourraient adopter dès demain pour justement...
En fait, on a lancé plein de choses, puisque à Bayeux, l'environnement, on n'a pas souhaité le traiter seulement par une personne ou par une commission, comme on peut traiter la commission sport, culture, personnel, tourisme. On n'a pas voulu travailler comme ça. Au contraire, dans chaque commission, on a désigné un conseiller municipal en charge de l'environnement. Ce qui fait que dans toutes les commissions, dans chacune de nos décisions, avec les services, on travaille sur l'environnement. Et donc, ces conseillers municipaux en environnement se réunissent une fois par mois, le lundi soir, en début de mois. Et donc, on définit comme ça une stratégie. Parce que pour nous, l'environnement, ce n'est pas simplement une compétence, c'est une compétence qui doit, dans notre quotidien, dans l'ensemble de nos responsabilités, dans tous les secteurs d'activité, être dans la tête de chacun. Et je vais vous donner par exemple ce qu'on a lancé il y a très peu de temps, c'était en début d'année. Moi, il y a un truc qui m'exaspère, je suis pas fumeur, mais j'ai un fumeur à la maison, et donc j'ai des centaines de mégots à ne plus savoir quoi faire. On a lancé une collecte des mégots avec une structure nationale qui s'appelle Alcove. Et donc, on a mis, je crois que c'est une quinzaine de potelés collecteurs. On a mis des collecteurs pédagogiques dans les entrées des lycées. Et puis surtout, on a demandé aux commerçants qui tiennent des bars, des restaurants, des bits de boissons, de collecter eux-mêmes les mégots dans les cendriers. Et bien, entre le mois de février et le mois de juin, où ça a été mis en place, c'est-à-dire pendant quasiment 5 mois, on a collecté 120 litres de mégots. Ça représente 110 000 mégots. C'est énorme.
Wow.
Et donc ces mégots, ils sont collectés, ils sont nettoyés, ils sont traités, on enlève les filtres et ils sont réutilisés, on en fait du plastique. Vous voyez, ce sont des petites actions du quotidien, mais qui sont hyper importantes. Aujourd'hui, on sait qu'un mégot, ça pollue 500 litres d'eau. Et aujourd'hui, les mégots, on les jette dans le meilleur des cas dans le sac noir, dans le pire des cas, c'est sur le trottoir, la rue, ça va dans les eaux, et donc au bout du bout, ça part à la mer, c'est bouffé par les animaux. On est quand même producteur, on pêche ici, on mange le poisson, et puis on traite les eaux aussi pour qu'elles soient... c'est des dizaines et des dizaines de produits néfastes qui sont dans les mégots. Donc vous voyez, c'est des petites choses toutes simples. Et les gens ici, ils adhèrent, quoi. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, ils viennent eux-mêmes apporter leurs mégots, mettre ça dans des petites boîtes hermétiques, et je suis persuadé qu'à la fin d'année, on aura encore un chiffre un peu plus important.
Impressionnant.
Pour ne pas manger des huîtres au camel, mettez les mégots dans les poubelles ou dans les petites. Comment ça s'appelle ?
C'est des collecteurs à mégots. Voilà, c'est. Mais les huîtres, c'est bon aussi. Hein. Sur le littoral, on a plein d'huîtres. Il faut les valoriser parce qu'ils ont besoin de vendre leurs produits. Ils ont connu des années un petit peu galères.
Ben justement, on parle un peu de la mer, mais avec Tatiana, dans notre tour de Normandie, on voit beaucoup de villes qui créent des espaces de randonnée, des chemins de trail, etc.
Ouais.
Est-ce que vous, de Bayeux, on peut, soit en vélo ou à pied, aller jusqu'aux plages?
Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs façons vraiment d'y aller. Il y a d'abord évidemment les chemins de randonnée classiques. Ensuite, on a multiplié les itinéraires cyclables. Donc les gens peuvent y aller en vélo. On a encore des choses à faire. Hein. Il y a un plan pluriannuel qui permet de continuer de déployer les pistes et les bandes cyclables. Mais on a développé, nous, depuis quelques années, ce qu'on appelle des courses d'orientation. C'est-à-dire qu'on a référencé des parcours entiers où les gens peuvent partir simplement avec une boussole. Et dans le centre-ville de Bayeux, il suffit de regarder un petit peu, mais il y a
des balises.
Des balises. Et donc les gens peuvent faire différents parcours. C'est des parcours gourmands, c'est des parcours historiques, c'est des parcours pour les enfants. On a fait ça aussi à Port-en-Bessin. Et donc, avec l'association dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Azim, on travaille beaucoup sur le sujet et ça fait depuis plusieurs années. Et ça, c'est quelque chose d'original.
C'est trop bien,
je pense que ça marche bien.
Ça marche bien.
Ça marche très bien, oui. Savoir consulter sa boussole, quoi.
Oui. T'as essayé ?
Ouais, j'ai essayé, et notamment avec mes petits neveux, mes petites nièces. En fait, c'est eux qui m'ont perdu.
ils avaient tout trouvé. Ouais. Par contre, on ne sait pas où est passé Arnaud. Non mais ça c'est pareil, c'est un moyen hyper original de faire découvrir le patrimoine à la fois comme tu dis historique, environnemental de sa ville.
Ouais,
c'est
justement moi j'avais j'aime bien poser des petites questions personnelles, mais par exemple si on remontait dans le temps et que t'avais 17 ans là aujourd'hui à Bayeux, qu'est-ce que tu ferais de tes week-ends, qu'est-ce que tu regretterais qu'il n'y avait pas à cette époque-là, peut-être justement peut-être cette course d'orientation pour découvrir la ville.
Alors en fait, moi j'ai la chance d'être un élu heureux puisque je suis en charge du sport de la jeunesse depuis presque 17 ans. Donc j'en ai 43, donc voilà, j'avais un peu plus de 20-25 ans. Et donc je me souviens très bien de mes 17 ans. Je me disais, mais il y a plein de choses à faire ici et pourtant on ne le fait pas. Et donc on a un centre de loisirs qu'on appelle le 3-18 pour les enfants de 3 ans à 18 ans. Et donc il y a plein d'activités à faire et pas simplement des activités encadrées, programmées. Programmé par un animateur, nous on a mis en avant ce qu'on appelle la pédagogie de la liberté, c'est-à-dire que les enfants, ils viennent, ils choisissent ce qu'ils font, quelle que soit leur tranche d'âge, s'ils veulent rêvasser, s'ils veulent au contraire avoir une activité sportive, ils peuvent l'avoir. Puis il y a aussi tout un tas de programmes d'activités qui sont proposés. Mais au-delà de ça, je pense qu'à Bayeux, on a la chance d'avoir une médiathèque, la médiathèque intercommunale, où on ne fait pas simplement que de mettre à disposition des livres, il y a aussi des activités autour de la musique, autour des jeux vidéo, autour de la cuisine, donc il y a vraiment possibilité de faire plein de choses. On a ouvert il y a quelques années le centre aquatique intercommunal Oreo, qui a une dimension particulière, qui a un espace de balnéothérapie, c'est-à-dire qu'on a sauna, hammam, jacuzzi, on a aussi un petit bain froid pour les sportifs, une fois qu'ils ont couru, ils peuvent aussi se mettre au frais.
Pour Kevin
Vauquelin, qui puisse récupérer comme il faut.
Et ça fait vraiment la différence, et ça c'est sympa. Et je pense que la ville, elle est à dimension humaine. Ça veut dire que quand on est ado à Bayeux, on peut facilement se balader, on peut se poser dans un petit parc, on peut manger une glace sans pour autant que les parents soient inquiets, parce que on se connaît tous plus ou moins ici. Et en plus, il y a ce côté touristique de la ville où on peut très vite rencontrer des gens, discuter, échanger. Vous savez, on parle souvent d'échanges culturels, mais échange culturel à Bayeux, c'est de sortir dans sa rue et puis de se poser un café et simplement de prendre le temps de discuter 5 minutes avec un Italien, avec un Anglais, avec un Américain. Et ça, c'est une richesse de tous les jours, quoi.
On ne sait pas sur qui on peut tomber et on peut très bien en apprendre beaucoup.
Parfait exemple, on est arrivé avec Tatiana et je crois que c'était un couple ou des amis d'origine allemande. J'ai fait avec l'accent qu'ils ont commencé à me parler, qu'est-ce que c'est, etc. Et il y a vraiment ce côté-là où tout le monde se parle.
Ouais.
Peu importe la langue, en fait, les gens ils vont à travers la langue. Et c'est vrai que c'est assez génial.
Moi, c'est ce que j'aime de Bayeux, c'est que justement, quand j'avais 17 ans, je trouvais que Bayeux, c'était une belle endormie. Et depuis une trentaine d'années, il se passe plein de choses. Bayeux, cette petite ville un petit peu oubliée de Normandie qui vivait sur ses acquis.
Surtout à côté de Caen, en plus.
Oui, c'est ça, on était à l'ombre de Caen, tout à fait. Je pense qu'en quelques années, en quelques dizaines d'années, la ville a changé de visage. Il y a une vraie dimension culturelle, il y a une vraie dimension sportive, on a des équipements sportifs qui sont vraiment de qualité. Je pense notamment au terrain de tennis couvert. On a plusieurs, je crois qu'on a c'est 13 ou 14 terrains de tennis.
Ah oui.
gros club.
La piscine, on a aussi l'espace Eindhoven avec trois dojos, on a un mur d'escalade, on a un espace dédié pour le tennis de table, on a différents stades de foot, on a une salle qui est réservée pour la pratique du basket. Donc sportivement, je crois qu'on doit avoir 5600, 5800 licenciés sportifs.
Wow.
Mais il y a toutes les pratiques non licenciées. Ça va du skatepark à la course à pied, aux activités de danse, au vélo évidemment. Donc Bayeux est une ville vraiment très 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 sportive.
Et c'est aussi ça qui fait que Bayeux peut bouger l'hiver, parce qu'en fait on voit bien que Bayeux bouge l'été, ça c'est une certitude.
Ouais.
Mais comment réussir à faire bouger Bayeux l'hiver?
Mais en fait, il y a quelques années, il y a 3 ans à peu près, on a pris la décision de reprendre le marché de Noël, le reprendre en main et donc d'apporter une nouvelle dynamique sur ce marché de Noël. Et l'année dernière, le marché de Bayeux a été élu dans le top 5 des plus beaux marchés de l'ouest de la France.
Oh.
Parce que le marché, il a lieu au pied de la cathédrale.
Vous gagnez tous les concours.
on est des sportifs dans l'âme, quoi. Donc, effectivement, quand on joue, on aime bien gagner. mais c'est sympa parce que autour de l'Arc de la Liberté, on a réussi à animer, on a réussi à créer des décors, on a amené des animaux, et ce marché a naturellement pris place au pied de la cathédrale. Donc là aussi, c'est familial, c'est gratuit, les gens se retrouvent, et c'est quand même sympa. Il fait nuit généralement assez tôt, vers 18h, c'est l'heure de l'apéro, on prend un verre, on mange un petit truc. Voilà, la convivialité, ça passe par là aussi. Et donc, effectivement, comme ça, on a réussi à étirer la saisonnalité de la ville. Et puis en début de saison, qui était plutôt une période un petit peu plus calme là, sur le mois de mars, il y a quelques années, avec des collègues de BTS à Saint-Lô, j'étais étudiant, je n'étais pas encore élu, on a lancé avec le maire de Bayeux de l'époque un festival international de cirque, et aujourd'hui eh bien, le cirque a sa place à Bayeux. Ça fait 22 ans qu'on fait ce festival, on a aussi une école de cirque, on a 200 élèves qui viennent pratiquer tout au long de l'année. Donc voilà, c'est un curseur de plus, c'est une identité culturelle et sportive différente que qu'on peut trouver ailleurs, mais aujourd'hui je pense que c'est ce qui fait la différence sur cette ville. C'est une ville préservée où il fait bon vivre, on a un cadre de vie, on a la chance de pouvoir travailler puisque la dimension touristique amène naturellement du développement économique, et puis on a aussi des pépites, on a des entreprises qui font vraiment sur des niches, sur des secteurs d'activité, notamment en aviation, avec évidemment l'industrie aussi agroalimentaire. On baigne ici aux côtés de nombreux agriculteurs qui produisent du lait, de la viande, et donc tout ça derrière, il faut le transformer, il faut le transporter. C'est aussi ce qui fait l'ADN de la Normandie, donc ça passe un peu par Bayeux.
Ouais, c'est incroyable. En tout cas, Bayeux, avoir réussi à créer une ville aussi dynamique,
ça donne envie,
en Normandie. Ouais, ça donne envie.
On a envie d'y vivre. Moi, je vais poser mes bagages demain. Moi.
C'est bon, t'as envie de.
Ça y est, c'est
bon. Je m'occupe du camping. Je dois bien trouver un petit emplacement avec une tente.
pour la Mystery Machine. On a juste besoin. Ouais, on fout les lits dans la Mystery Machine. Mais c'est réglé. Ben, merci beaucoup.
Il y a de la place dans votre petit véhicule.
Oui, oui, oui.
Ah, mais qu'est-ce que t'en penses de la Mystery Machine?
Eh ben, moi, je la trouve très bien. Alors, je connaissais pas le nom.
Il faut une radio à Bayeux.
Eh bien, c'est une bonne idée, je trouve. on avait fait un projet il y a quelques années avec nos centres sociaux autour de la radio. Ça avait été fait aussi dans les lycées. J'avais trouvé ça super intéressant. Moi j'aime beaucoup la radio, j'écoute beaucoup la radio, je trouve que c'est un média où on prend le temps justement d'échanger
là,
et ça c'est rare. Aujourd'hui on prend plus le temps de zapper, on passe d'un sujet à un autre en seulement quelques secondes, et prendre le temps de se parler, de discuter, la vraie vie c'est ça, quoi. Donc merci vraiment.
Merci
à toi Arnaud Tangrel de nous avoir accueillis dans ta ville, dans ta ville natale. C'était super, puis on a découvert une magnifique ville, et grâce à vous, entre Arnaud et toi et Loïc, maintenant on connaît tous les petits secrets autour de Bayeux.
Il y a encore plein de secrets à savoir,
mais ça, pour ça il faut être
ça reviendra peut-être.
On reviendra et on ira vivre un petit peu là-bas. Merci beaucoup.
Merci encore.
Merci Simon, merci Tatiana. Merci à l'été à tous.
Merci.